Donc, en frioulant, comme en italien, comme en provençal ou provincial et régional, comme en latin, la préposition ab, vous savez, ça signifie à la fois la provenance et la distance. Ab, c'est le point d'attache et c'est en même temps la ligne de fuite. Là d'où tout vient, mais d'où il s'agit justement de partir, de repartir. L'abjoy serait donc une joie fondamentale qui doit nécessairement sortir d'elle-même pour assumer la souffrance qui forme son fond et son destin provisoirement déjoué. C'est la joie qu'on retrouve après l'avoir quitté. C'est la joie qu'on retrouve après avoir traversé l'angoisse, par exemple. J'appellerais ça, moi, la joie malgré tout. La joie éprouvée par celui qui sait l'omniprésence des affrontements, mais qui veut y trouver jusqu'au principe même du désir et de l'approche du contact. Si je jouais sur les mots en français, si vous me permettez, c'est la joie abyssale, même si elle est abusée. C'est la joie abondante, même si elle est abattue. C'est la joie aberrante, et peut-être même quelquefois la joie abjecte. Abjoya serait ainsi pour Pasolini le principe même de la vie, comme il dit, sacrale, en tant que vie profanatrice, le moteur de toute rencontre, pensée dans la mêlée comme dans la démêlée. Il dit, à un moment donné, dans Poeta delle Ceneri, il dit, il faut résister dans le scandale et dans la colère. Mais son œuvre entière fait résistance aussi dans son irrésistible vocation à ce que Bataille aurait nommé la joie suppliciante. Abjoya.
À Versuta, un minuscule hameau perdu dans les champs, j'ai fait souffrir Pina plus qu'il n'était nécessaire. Souvent, Pina, qui habitait à moins de 100 mètres dans la famille de sa sœur, venait nous retrouver apportant son violon. Un soir, je me tenais dans un coin de pénombre près de la cheminée avec Gianni sur les genoux. Elle arriva. J'écoutais chacun de ses pas, chacune de ses paroles, alors qu'à l'étage supérieur, elle s'entretenait avec ma mère. Gianni était superbe, avec ses joues rougies par le feu de la cheminée et ses yeux qui me regardaient, consciemment. Ce soir-là, j'avais inventé avec lui un jeu qui consistait à nous regarder dans les yeux sans sourire. J'étais complètement pris par l'essence. Et voici que j'entendis un, deux accords de la chaconne. C'étaient ceux de la 14e variation, plaintive, déchirante, pareille à une voix humaine. Pina m'appelait. Je continuais à regarder dans les yeux le garçon et à le serrer contre ma poitrine.
Je suis un beau garçon, je pleure tout le jour. Je t'en prie, mon Jésus, ne me fais pas mourir. Jésus, Jésus, Jésus. Je suis un beau garçon, je ris tout le jour. Je t'en prie, mon Jésus. Ah, fais-moi mourir. Jésus, Jésus, Jésus.
Lassù tra mezzo gli angeli cantavano per te solo Maria, per carità, ridatene quell'angelo.
Thank you.
Et parce que la joie passe toujours par les mouvements du corps, ce qui implique d'ailleurs au cinéma pas seulement les gestes, mais la modification de l'espace tout entier, l'œuvre du poème d'action ne sera rien d'autre pour Pasolini que d'exposer ensemble les figures de l'affrontement et les figures de l'attachement. Si faire du cinéma, ce n'est rien d'autre que composer un poème d'action, alors celui-ci ne fera rien d'autre que faire danser les conflits. Une chorégraphie des conflits, c'est-à-dire exposer l'affrontement en tant que dialectique de désir et forme ultime de beauté. Il suffit de remarquer l'importance des scènes de rixes, de combats singuliers, les affrontements entre des êtres proches dans le cinéma de Pasolini. Les plus célèbres se trouvent dans Accattone, 1961, Mamma Roma, 62, Uccellacci, Uccellini, en 1965, Edipo Re, en 1967, mais aussi plus tard dans les Racconti di Canterbury, 1971, ou dans Il Fiore delle Mille e Una Notte, en 1973. Le scénario de Accattone est, par exemple, quand on lit le texte écrit par Pasolini, révèle avec force que la mise en présence des deux personnages affrontés, et ce sera au départ dans la séquence du film un champ contre champ des deux visages frontalement cadrés, les fait se précipiter dans un violent corps à corps que tout le peuple, et j'oserais même dire le cœur comme à la tragédie, réuni autour d'eux, ne parvient pas à dissocier. Pasolini écrit dans son scénario: Accattone è come incollato al cognato, il est comme rivé à son beau-frère, sans que l'on puisse réussir à l'en détacher. Et c'est ainsi que les deux restent attachés, comme formant un seul corps, i due restano attaccati come un corpo solo, en grondant comme des bêtes, résistant aux arrachements par quoi les voisins tentent de les séparer. Ce qui frappe dans le film lui-même, c'est d'abord la longueur de la séquence. Pasolini entre avec précision et cruauté. Mais je dis cruauté, mais comment ne pas voir aussi la magnifique tendresse de son regard, hein, il y a les deux. Il entre dans l'affrontement noué des deux corps. Loin de toute bagarre à l'américaine, hein, les films hollywoodiens, dans tous les films hollywoodiens, il y a toujours un vainqueur qui ne tarde pas à émerger. Non, c'est le contraire ici. La scène d'Accattone s'attarde. Il n'y a pas de vainqueur. Elle s'attarde sur les moments où le combat, pratiquement, produit sa propre immobilisation. Hein? À Hollywood, les combats, c'est du mouvement. Ici, ça devient de l'immobilisation. Ce n'est pas un combat de chef. C'est un misérable combat. Un combat de deux pauvres, aussi impuissants l'un que l'autre. Et de tout cela, c'est ça le paradoxe. C'est ça la gioia. Tout cela surgit une extraordinaire grâce chorégraphique. Les deux corps n'en font plus qu'un, mais c'est un corps chimérique, terrifiant, mais aussi admirable, conflictuel, mais aussi amoureux. Pendant que, sur toute cette violence corporelle, et distribuant puissamment dans sa grâce, comme chez Dreyer d'ailleurs, chez le procédé directement emprunté à Dreyer, plane dans la bande-son les chœurs de la Passion selon saint Matthieu, à ce moment final où Jean-Sébastien Bach fait se lamenter le peuple devant le tombeau du Christ. Alors c'est une lamentation et dont le texte est un texte de joie. C'est une véritable abgioia de l'âme qui revendique sa félicité depuis le fond même du deuil du Dieu fait homme.
Thank you.
Il semble clair qu'un tel mélange, d'affrontement et d'attachement ne saurait exister sans les montages, c'est là où je veux en venir, auxquels Pasolini s'est livré dans sa séquence. Montage des corps, dans les indications de jeu qui président à la scène. Il faut combattre sans se lâcher. Il faut être violent sans se frapper, pratiquement. Deuxièmement, montage des espaces. Je veux dire, le contraste tellement puissant entre la rue populaire, dans le scénario de Pasolini, le lieu est nommé Spiazzo Miserabile, c'est-à-dire une étendue misérable. Alors vous avez cette étendue misérable en bas, et si j'ose dire en haut, mais je parle du son, la nappe orchestrale, l'étendue orchestrale, qui fait chanter cette bagarre comme une symphonie, comme une messe, comme une je ne sais pas quoi, comme une passion. Troisièmement, le montage des temps, des temporalités, puisque le mendiant qui se bat au présent devient, par la musique de sa lutte, la beauté de ses gestes, mais évidemment ce recours à la musique, genre Dreyer, une figure de ce que Pasolini appelle le passé sacral. Exactement comme dans la ricotta, le figurant meurt dans le présent du tournage en offrant une figure christique dans le passé de l'iconographie. Alors on peut revenir à l'image proposée par Giuseppe Zigaena quand il parlait du cinéma pasolinien au cœur de la réalité. On peut considérer le montage, qui est cette opération formelle par excellence, mais rythmique aussi, eh bien on peut dire le montage c'est ça le cœur. C'est le cœur de ce qui nous fait aller de coup à contre-coup, de coup à silence, de désir à deuil, de joie à angoisse. Ce cœur qui fait battre tout film vivant comme un poème d'action. Que le cinéma atteigne le cœur en se donnant comme montage de la réalité, c'est ce qui apparaît clairement dans plusieurs textes de Pasolini, qui cherche à élaborer la notion de ce que Pasolini appelle le montage rythmique, qui dépasse toute opération strictement sémiologique pour mettre en œuvre une véritable puissance d'ordre phénoménologique, et ce n'est pas mon vocabulaire, c'est vraiment celui de Pasolini, il le dit exactement comme ça, qui est la puissance même de l'affrontement des plans. Pourquoi ce type de montage est-il plus fécond et nécessaire qu'un autre ? Parce qu'il réussit à faire jouer ensemble trois paradigmes fondamentaux pour Pasolini, qui sont d'ailleurs des paradigmes qu'il a trouvés déjà très jeune dans la lecture de Auerbach, qui sont la mimésis, c'est-à-dire le cinéma comme enregistrement de la réalité, la figura, c'est-à-dire le cinéma comme opération formelle et signifiante, et la passio, c'est-à-dire le cinéma comme mise en œuvre des gestes et des affects humains. En ce sens, le montage n'est pas seulement envisagé par Pasolini sous l'angle d'un procédé de construction, mais encore sous celui d'une sorte de phénoménologie de la contagion, une sorte de contamination d'un élément à l'autre ou d'une dimension expressive à une autre, en sorte que quelque chose, dit Pasolini, puisse se passer, survenir, si je joue sur les mots encore en français, quelque chose qui survient et quelque chose en même temps qui se souvient, qui a rapport avec la mémoire, en même temps qu'il a rapport avec l'événement.
Le soleil.
Il sole.
La couleur.
Il colore del cielo. La nemica dolcezza.
Cette hostile douceur.
Che l'aria rabbuiata da ridivive nubi ridà le cose.
Que l'air assombri de spectres de nuées.
Tout accade come una passata ora del mio esistere.
Tout se passe comme une heure résolue de ma vie.
Il passato,
mon passé,
è quello che ebbi per destino.
Tel que me l'a assigné le destin.
Nient'altro che vuoto sconsolato e sconsolante.
N'est rien d'autre qu'un vide inconsolé et consolant.
Passer. Faire passer. Faire front. Faire lien. Faire passage. Tout cela n'existe pas sans la passion. Comme il n'est pas de passion sans passage d'ailleurs, c'est-à-dire sans intervalle, sans fraction, sans fracture ou sans élément interne. Affrontement interne que suppose tout affect et tout geste expressif.
In quel pianto il mondo è odore. Odore che trema per diventare.
Et en ses pleurs, le monde est une odeur. Une odeur qui ondoie pour devenir. Là où les pleurs sont doux.
Dove il pianto è dolce. Materia d'espressione. Nuance.
Non piangere.
Pasolini parle de son montage dans ces termes. Il dit: je fractionne l'action en de nombreuses séquences brèves, gros plans, plans américains, plans d'ensemble, c'est-à-dire que je recueille chaque expression et chaque geste, pourrait-on dire, en un seul plan. Mais ce plan lui-même n'est fait que de conflits, de fractures et des passages qui le font tenir, exactement comme la diastole et la systole fait battre un cœur, exactement comme la joie et l'angoisse mêlées font vivre la gioia du poète.
La ben nota voce della
familiare di questa langue folle e
vera
che ebbi
nascendo nella vita
è nota.
L'ho trovato là, piangeva, l'ho preso pensando che tu...
Dammelo bestia, dammelo! Figlio della fortuna.
Il sole, il colore del cielo, la nemica dolcezza, che l'aria rabbuiata da ridivive nubi ridà le cose. Tutto accade come una passata ora del mio esistere.
C'est donc sur un plan fondamental, anthropologique en quelque sorte, que Pasolini considère le montage et, partant, le cinéma tout entier comme ce qu'il appelle una arcaica forza, une force archaïque qui concerne le lien et l'affrontement au réel. Il est significatif que Pasolini, dans cette veine anthropologique, ait parlé comme d'un certain rapport vital à la mort elle-même.
Nient'altro che vuoto sconsolato e consolante. E in quel pianto il mondo è odore. Nient'altro. Viole, prati.
Le montage rythmique, selon lui, musicalise exactement notre affrontement à la mort. De même que la mort telle qu'imaginée par lui, je cite, accomplit elle-même un fulgurant montage. Mais penser ainsi, c'est faire du cinéma une œuvre non seulement d'abjoya, mais aussi de survivance. Il écrit, en pratique, le cinéma, c'est comme une vie après la mort, et telle est la façon par laquelle une vie devient histoire. On revient là exactement à ce qu'on entendait dans la scène d'Acatone, le lamento de Jean-Sébastien Bach, que l'on entend rythmer l'affrontement des deux sous-prolétaires. Le modèle du poème d'action, en fait, en fin de compte, ça serait le traînos, le traîne antique, l'éloge funèbre, la lamentation sur le mort, conçu comme remontage poétisé et musicalisé de la vie du défunt. Alors j'explique pourquoi, enfin Pasolini va lui-même expliquer pourquoi il voit la mort comme un montage, je cite, c'est un texte intitulé « Signe vivant et poète mort ». Il écrit « Dès que quelqu'un est mort, une rapide synthèse de sa vie, à peine conclue, se réalise. Des milliards d'actes, d'expressions, sons, voix, paroles, tombent dans le néant. Quelques dizaines ou centaines survivent et quelques-unes de ces phrases résistent comme par miracle, s'inscrivent dans la mémoire, donc des autres, des survivants, comme des épigraphes et elles restent suspendues dans la lumière d'un matin, dans les douces ténèbres d'une soirée, la femme et les amis pleurent en se rappelant. Dans un film, ce sont ces phrases-là qui restent. Donc, le film comme lamentation et la mort comme montage.
Odore che trema per diventare, qua dove il pianto è dolce, materia d'espressione, tono.
Regina! Regina, guarda!
Il re!
Regina! Regina, guarda cosa ti porto! Un dono degli dèi!
Quanto è bello! C'è gli occhi che sembrano due stelle!
La ben nota voce della lingua folle è vera, che ebbi nascendo e nella vita è immota.
Dammelo qua, ma come lo tieni? Vuoi farla morire questa povera creatura, senza nemmeno un po' di garbo, un po' di buone maniere. Vieni qui, piedini gonfi miei, piccolo Edipo, figli.
Odore che trema per diventare, qua dove il pianto è dolce. Materia d'espressione, tono. La ben nota voce della lingua folle è vera, che ebbi nascendo e nella vita è immota.
Il est clair en tout cas qu'une telle dialectique sous-tend le rapport construit par Pasolini entre ces histoires, ces fables, ces poésies, ces pièces autobiographiques ou mythologiques, et l'histoire elle-même, la grande histoire, l'histoire des peuples.
Del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli, tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi addosso umilmente e la tua anima di figlia di piccola gente non ha mai saputo di averla, perché altrimenti non sarebbe stata bellezza. Il mondo te l'ha insegnata, così la tua bellezza divenne sua. Del pauroso mondo antico e del pauroso mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu te la sei portata dietro come un sorriso obbediente. L'obbedienza richiede troppe lacrime inghiottite. Il darsi agli altri, troppi allegri sguardi che chiedono la loro pietà. Così ti sei portata via la tua bellezza. sparì come un pulviscolo d'oro. Dello stupido mondo antico e del feroce mondo futuro era rimasta una bellezza che non si vergognava di alludere ai piccoli seni di sorellina, al piccolo ventre così facilmente nudo. E per questo era bellezza. La stessa che hanno le dolci ragazze del tuo mondo. Le figlie dei commercianti vincitrici ai concorsi a Miami o a Londra. Sparì come una colombella d'oro. Il mondo te l'ha insegnata e così la tua bellezza non fu più bellezza, ma tu continuavi a essere bambina, sciocca come l'antichità, crudele come il futuro. E fra te e la tua bellezza, posseduta dal potere, si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente. La portavi sempre dietro, come un sorriso tra le lacrime, impudica per passività, indecente per obbedienza. Sparì come una bianca colomba d'oro. La tua bellezza sopravvissuta dal mondo antico, richiesta dal mondo futuro, posseduta dal mondo presente, divenne un male mortale. Ora i fratelli maggiori finalmente si voltano, smettono per un momento i loro maledetti giochi, escono dalla loro inesorabile distrazione e si chiedono: è possibile che Marilyn, la piccola Marilyn, ci abbia indicato la strada? Ora sei tu, quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso. Sei tu la prima, oltre le porte del mondo, abbandonato al suo destino di morte.
La douce et triste voix de poésie évoque Marilyn comme une figure anachronique tendue entre le monde antique et le monde futur. Cette voix donc s'adresse à Marilyn sur le ton d'une élégie sensuelle. Il s'adresse à elle comme à une pauvre petite sœur de la société américaine. Il invoque sa beauté, son sourire, ses seins, son petit ventre nu, tout cela qui ne fut à un moment, comme il le dit si bien, qu'indécence par obéissance, et donc quelque chose de la beauté qui est appelé à devenir une aliénation, c'est-à-dire un mal mortel.
La classe padrona della bellezza, fortificata dall'uso della bellezza, giunta ai supremi confini della bellezza, dove la bellezza è soltanto bellezza. La classe padrona della ricchezza, giunta a tanta confidenza con la ricchezza da confondere la natura con la ricchezza. Così perduta nel mondo della ricchezza da confondere la storia con la ricchezza. Così addolcita dalla ricchezza da riferire a Dio l'idea della ricchezza. La classe della bellezza e della ricchezza, un mondo che lascia fuori dalla sua porta.
La question politique posée par Pasolini, c'est pourquoi faire œuvre, faire don de beauté dans des temps, des sombres temps, comme dirait Brecht, où existe une classe patronne de la beauté. La question politique, elle est très claire, c'est pourquoi montrer la beauté si montrer la beauté équivaut à l'abandonner entre les mains de l'ennemi. Ça veut dire, la beauté serait-elle elle-même un objet de lutte des classes? Pasolini n'a même pas à répondre. C'est évidemment oui, et c'est ça qu'on voit juste après. C'est ça qu'on voit, des bourgeoises typiques, typiquement vulgaires, à force d'être, comme je le lis dans le scénario, in gioiellate, chargées de bijoux, lors de soirées d'opéra ou quand on fait des enchères pour acheter une belle œuvre de Barnett Newman, par exemple, ou de Fautrier, voilà. C'est-à-dire la question de l'appropriation bourgeoise de la beauté, qui est aussi appropriation de la nature et de l'histoire elle-même. La classe patronne de la richesse, parvenue à une telle confiance dans la richesse, au point de confondre la nature avec la richesse, à ce point perdue dans le monde de la richesse, qu'elle confond l'histoire avec la richesse. Comme Bataille, Pasolini est complètement taraudé, je dirais, par le rapport entre la beauté et le mal, et il va situer le conflit à l'intérieur de la beauté elle-même. Alors je reprends un peu les éléments de ce qui est en fait un argument. Vous avez Marilyn, c'est une beauté par obéissance. Vous voyez, vous avez une personne rayonnante, antique et juvénile aux yeux de Pasolini. Juvénile et antique, ça va toujours ensemble. Une beauté que s'approprie la classe bourgeoise à travers ce que Adorno nommait déjà l'industrie culturelle et que Guy Debord ne nommait pas encore la société du spectacle. Regardez la beauté de ces explosions atomiques. Qu'est-ce qu'elles sont, sinon la beauté par terreur, la beauté d'un processus de destruction absolue aux mains des seigneurs de guerre. Regardez cette beauté, c'est Fautrier, c'est de la beauté abstraite, c'est l'art pour l'art dont il ne supporte, qu'il ne supporte pas. Et que, au fond, la bourgeoisie, à ses yeux, s'approprie cette beauté de la même façon qu'au Moyen-Âge, Scroveni s'appropriait la beauté de Giotto pour, disons, pour apaiser son éventuelle mauvaise conscience, comme Monsieur Frick l'avait fait, qui s'occupait, il y a pas mal de mineurs engagés par Frick qui sont morts de coups de grisou, eux aussi, et puis qui a créé cet extraordinaire musée d'art à New York, ou François Pinault aujourd'hui, et des gens comme ça. Voilà. Et voilà pourquoi, dans la séquence qui suit immédiatement, vous voyez deux portes solennelles qui se ferment devant nos yeux, comme si la beauté nous était refusée par les maîtres de la richesse. La classe de la beauté et de la richesse, un monde qui ne vous écoute pas, la classe de la beauté et de la richesse, un monde qui vous laisse sur le pas de sa porte. Et c'est là que les mineurs reviennent depuis le fond du film, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est là qu'émerge ce que j'appellerais l'autre beauté, la beauté si étrangement belle de porter son autre, qui est la douleur la plus antique. 23 mineurs remontés depuis le fond de la mine, portés par leurs camarades et pleurés par leurs épouses ou par leurs mères. C'est cela qu'on voit d'abord, c'est un contrepoint exact aux vies chargées de bijoux des bourgeoises, c'est un contrepoint également à la mort de Marilyn elle-même en forme de poussière d'or. Ce sont des femmes en gris, en noir, des femmes qui se débattent dans le deuil, qui se lamentent, qui se taisent dignement, comme ici.
Et la classe degli scialli neri di lana,
comme ici.
Dei grembiuli neri da poche lire, dei fazzoletti che avvolgono le facce bianche delle sorelle. Delle attese cristiane, dei silenzi fratelli del fango e del grigiore dei giorni del pianto, la classe che dà supremo valore alle sue povere mille lire e su questo fonda una vita, pena capace di illuminare la fatalità del morire.
La gioia dell'americano che si sente uguale a un altro milione di americani nell'amore per la democrazia. Questa è la malattia del mondo futuro. Quando il mondo classico sarà esaurito, quando saranno morti tutti i contadini e tutti gli artigiani, quando l'industria avrà reso inarrestabile il ciclo della produzione e del consumo, allora la nostra storia sarà finita. In questi urli, in queste adunanze sterminate, in queste luci, in questi meccanismi, in queste dichiarazioni, in questi eserciti, in queste armi, in questi deserti, in questo irriconoscibile sole, incomincia la nuova preistoria.
Je ne regrette pas une réalité, mais sa valeur. Je ne regrette pas un monde, mais sa couleur. Revenant sans corps là où les cloches chantaient des paroles de devoir, sourdes, telles des tonnerres. Je ne pleure pas parce que ce monde ne revient plus, mais je pleure parce que son retour a pris fin. Je suis resté avec tout, seul, sans la plus grande des tromperies, celle qui semblait être ma raison de vivre et celle du monde. Je reviens et, tel un Australien, je passe sur des ponts effondrés.
On en aurait pleuré ? Oui. Tant cela n'était fait que pour pleurer. Fallait-il pleurer? Tout cela n'était fait que pour pleurer. On en aurait pleuré? Oui. Tant cela n'était fait que pour pleurer. Pour pleurer seulement. Pour en pleurer, il aurait fallu que tout était fait pour pleurer. Pour pleurer tant cela était fait pour. Pleurer qu'il n'y aurait eu rien d'autre que cela, tant cela était fait pour. Tant cela n'était qu'à pleurer. Seulement. Tout y porter. Oui. Tout porter à ce que cela ne soit fait que pour pleurer. Cela n'aura pas été fait autrement que pour que tout y porte. Que tout porte à pleurer. Tant cela n'a jamais été fait que pour pleurer. Et que pleurer, c'était le faire seul. Oui, on en aura pleuré. On l'aurait peut-être bien fait. On l'aurait fait avec tout ce qui porte à pleurer. Avec le fait que c'est à pleurer seulement qu'on pleure. Oui. On aurait pleuré. Il aurait fallu pleurer. Oui. Tout cela n'était fait que pour qu'on en pleure. Et qu'on en pleure mal. C'était à pleurer. C'était à en pleurer tellement qu'on en aurait pleuré. Et on en aura pleuré. Tant cela n'était fait que pour pleurer. On en aura pleuré de pleurer. On en aurait pleuré, cela n'aurait pas été suffisant à faire qu'on pleure. Tant cela n'aura jamais été qu'on pleure et qu'on pleure mal. tout cela n'est pas fait pour qu'on pleure. Les pleurs sont trop petits. Tout cela n'est que trop petit. Tout cela est trop fait pour qu'on en pleure. Jamais on n'aura pleuré. Il aura fallu beaucoup pleurer pour que pleurer ne soit plus fait pour. Mais on n'aura jamais fait que pleurer soit à pleurer. On n'aura jamais fait pour que pleurer ne soit que pleurer et qu'il n'y ait rien d'autre que pleurer. Que pleurer soit tout. C'est à pleurer, oui. C'est à pleurer qu'on y arrive si peu, si mal, pas du tout. On n'aura pas du tout pleuré. On en aurait pleuré, on aurait été ensemble. Ensemble est à pleurer, oui. On n'aura été ensemble que pour pleurer. On aura été ensemble pour que pleurer soit encore pleurer. Ensemble presque à pleurer. Tant cela a été fait pour qu'on pleure ensemble. Pour que pleurer ressemblât à quelque chose. À quelque chose qui ferait qu'on soit ensemble. Et qu'il n'y ait pas ce quelque chose sans en pleurer. Oui. Tant cela a été fait pour. Tant cela n'a jamais été fait que pour que nous soyons ensemble. Presque. Pour qu'à la fin, on pleure d'être ensemble. On aura été ensemble. Non. On aurait été ensemble qu'il aurait fallu bien faire en sorte d'y être. On aura été ensemble que pour ne jamais y être. Finalement, que pour n'y être jamais. Que pour n'avoir jamais su y être. Que pour n'avoir pas su être ensemble. Finalement. Tant cela n'a jamais pu être autre chose que mal. C'était mal qu'on aura été ensemble. C'est-à-dire qu'on aura été ensemble, pas autrement que mal. Assez peu, finalement, pas assez, qu'ensemble mal. Et on en aurait pleuré. Oui. C'était à pleurer. Oui. On en aurait pleuré, cela n'aurait pas fait autrement. Cela n'aurait pas fait autrement, et cela n'aura pas été fait autrement, qu'ensemble resta si peu. Ensemble, et parfois si peu de choses. Cela n'aura pas fait autrement qu'on ne soit finalement jamais. Ensemble, et qu'ensemble, c'est encore ensemble, quand bien même, c'est encore ensemble, qu'ensemble se fit si mal, si peu, si modestement, si lamentablement, et qu'on ait été ensemble ne suffit plus à faire qu'on le fût, finalement. Qu'on ait été ensemble ne maintient pas qu'on pourra encore l'être. Finalement, qu'à la fin on eût été ensemble n'aura jamais pu faire qu'on l'eût été autrement. On n'aura jamais été qu'autrement, l'un avec l'autre. Que mal. que moindre, que pas assez, que pas du tout. Tant cela était fait, tant cela était pourtant fait pour qu'on le fût autrement que mal, autrement que moindre, autrement que pas assez, autrement que pas du tout. C'est entièrement qu'on aura été ensemble et on l'aura été insuffisamment. Qu'insuffisamment, c'est à pleurer. Et pleurer changerait-il? Oui. Non. On aurait pleuré, mais ceci ne prouve pas plus et ne porte pas plus à dire et ne porte pas plus à croire. On aura été ensemble en fin de compte. Finalement, c'est à pleurer. Finalement, ne dis pas davantage qu'il aura fallu beaucoup compter pour en finir, et que compter, c'était déjà finir. Finalement, qu'ensemble tout porta à en finir. Qu'ensemble n'aura pas été autrement possible qu'en comptant. Que c'est en comptant que tout commença par finir. Que, jusqu'aux larmes et aux pleurs, on aura compté, et on les aura comptées et pesé les larmes, les pleurs, pour qu'on en finisse d'être ensemble. Même si ensemble n'a été que moindre, que peu, il n'y avait plus personne à vouloir que ce fût mal, moindre, peu, pas assez, mal encore, quand bien même il n'y aurait plus personne à le vouloir, on aura été ensemble finalement, même seul, encore. Seul, c'était encore être ensemble parce que nous l'avions voulu, parce que nous ne pouvions que le vouloir, et nous avons beaucoup voulu. Seul. Et pleurer donnerait-il le change à ce que nous avions été si mal, si moindre, si peu ensemble? Que non. Et si cela donnait le change, cela ne ferait pas moins qu'ensemble reste à venir. Finalement, même mal, même de travers, même en boitant, ensemble reste à venir. Ce serait un bon début. Seulement on aura tout mal fait. On n'aura jamais su faire autrement que mal. Cela changerait-il? Peut-être. On n'aura été ensemble que pour se séparer. Finalement, c'est séparer qu'on aura toujours voulu. Et tout cela ensemble. Tout cela pour que rien n'arrive, pour que n'arrive que ce qui sépare de rien. On n'en aurait pas moins pleuré, et on n'en aura pas moins pleuré que les autres. On n'en aura pas moins réussi, ni plus réussi, non. On n'en aura pas été plus excusé, ni moins excusé. Mais on aura échoué à réussir, et échoué à échouer. On aura été mal, et mal à être, et mal à pleurer. On aura été maladement pour toute chose, parce qu'on n'a jamais pu faire autrement qu'être malade, parce qu'on n'aurait pas pu faire autrement que de vouloir, même mal, et ensemble encore. Seulement, on aura beaucoup pleuré, oui.
Thank you.
et ensemble, encore, seulement, on aura beaucoup pleuré. Oui.
Un cinzano e una visciolata, quant'è?
2,70.
Ah, papà, questa non c'è strada.
Dai, vai, vai a pigliare la visciolata, va.
Quando deve fare? Forza! 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 4.
Ragazzi, l'auto!
Signor intervistatore, a lei la parola.
Ma perché, per esempio, tu quando fai film come Accattone, Mamma Roma...
Pourquoi quand tu fais des films, tu tournes dans des endroits comme ici, des bourgades.
Guarda lì bene.
Regarde bien ces enfants. Tu préfères ces enfants-là ou bien ceux que tu appelles fils à papa? Cela. Moi, malheureusement, j'étais un fils à papa. Un père officier, une mère institutrice. J'ai passé mon enfance dans le Frioul. Puis, j'ai été à Rome, et là j'ai connu un monde que j'ignorais, le sous-prolétariat. Tu sais ce que c'est? Je ne sais pas. C'est le monde des gens qui travaillent, là où il n'y a pas d'industrie. À Milan, les ouvriers sont des prolétaires. À Rome, à Naples, en Sicile, ce sont des sous-prolétaires, parce qu'il n'y a pas d'usine. Ici, c'est un monde particulier. C'est le tiers-monde. Tu sais ce que c'est? Non, dis la vérité. C'est le monde pré-industriel, comme l'Asie, l'Afrique. Le tiers-monde commence ici, à partir de ses enfants. Et moi, fils à papa, en arrivant à Rome, j'ai été surpris, émerveillé, inspiré par la découverte de ce monde inconnu qui m'a fait une forte impression. Les poètes parlent de ces choses-là.
Sono inetto, di urgenti do e di semplicetti grazia. La vostra innocenza, la vostra semplicità e la vostra grazia sono religiose. E religione è la forza che vi porta un passo dopo l'altro per la vostra strada che nessuno sa. Che siate contadini o operai non importa. una strada che vi conduce lontano, là dove tutte le strade del mondo si incontrano.
Ninetto, se Ninetto lui mem, c'est à dire, c'est comme Totò, un personnage complètement innocent.
C'est l'innocence.
L'innocence. Dans la vie, il vive. Il ne connaît pas la vie, il vive.
Ce sont parmi eux des joues épanouies d'enfants que la lumière de la place rouge avive, regroupés en rond, en file, dans cette fosse immense sur laquelle les astres resplendissent tout proches.
Migliaia e migliaia di felici goti, di ragazzi, la luce della Piazza Rossa accende. Raccolti in cerchi, in ruote, in file, in quell'immensa fossa su cui gli astri splendono vicini.
Il joue avec une joie simple.
Giocano con semplice e commossa gioia. Sono questi i figli della fame, i figli della rivolta, i figli del sangue. Sono questi i figli dei pionieri che hanno solo lottato, degli eroi senza nome,
dei eroi anonimi.
I figli del lontano futuro disperato.
Desesperato.
Poco più veste la loro gioventù che il biondo capo, l'interna forza, il fuoco del pudore.
Le feu de la pudeur.
Per le enormi vie, gli enormi casamenti, stesi sopra il fuoco.
Jeté sur le vide
de la città potente
et sans forme
et senza forma. Che accoglie le loro nuove vite. Che accoglie le loro nuove vite.
I sogni a volte insegnano male, Dunia, perché la verità intera non è mai in un solo sogno. La verità intera è in molti sogni.
الحمام يا مروح بلدك تغني يا حواجي يا حمام يا مروح ترارم يا حمام يا مروح بلدك بتغني
Pasolini avait, pour l'occasion d'un film qui s'appelle Sweet Movie, écrit une chanson, un texte de poème. Ce texte de poème, tout à l'heure, Anna Pugnal va nous le chanter, mais je voudrais auparavant, Daniel Mezghi, si ça ne vous ennuie pas, que vous nous en lisiez la traduction.
Mais ça ne m'ennuie pas, au contraire. Les garçons là-bas dans le champ ne s'occupent pas du temps qu'il fait. Ils se jettent dans le fleuve pour pêcher une médaille. Les garçons là-bas dans le champ donne la chasse au fou, à pleine main ils s'emparent de lui et s'en vont le brûler sur le rivage. Viens, fille de la lune, de l'étoile matinale, donne à ses enfants les caresses du grand ciel. Les garçons là-bas dans le champ donnent la chasse aux bourgeois, les découpent en morceaux, ils fracassent les têtes de leurs ennemis et de leurs amis. Les garçons là-bas dans le champ cueillent des branches de romarin, ils se cachent derrière les puits pour surprendre les filles. Les garçons là-bas dans le champ donnent la chasse à un richard, lui arrachent ses dents en or et s'en vont les vendre au marché. Viens, fille de la lune, de l'étoile matinale, donne à ses enfants les caresses du grand ciel. Les garçons là-bas dans le champ sont des enfants sans mémoire qui vendraient père et mère avant que la tristesse ne les prenne.
I'm
sonora mia rosmarino e camuffano buche pozzi per acciuffare le ragazze. I ragazzi giù nel campo dan la caccia ad un ricco e gli fan togliere i denti d'oro e lo portano al mercato. Vieni figlia della luna, della stella matutina, che regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. I ragazzi posseggono memoria, perciò vendono gli antenati, per son presi da tristezza.
Dans l'admirable court-métrage de 1968, intitulé « La sequenza del fiore di carta », qui est un film construit rythmiquement comme un contrepoint chorégraphique et visuel. D'un côté, il y a une histoire, une historiette, on pourrait dire, minuscule.
Cassero del cerino, per favore. Come no? Ecco qua. Grazie.
C'est juste Ninetto d'Aroli qui descend, la Via Nazionale à Rome. C'est tout. Il descend une rue. Il marche dans la rue. Histoire minuscule.
J'ose lever les yeux sur les cimes sèches des arbres. Je ne vois pas le Seigneur, mais sa lumière, immense et qui toujours brille. Dans tout ce que je sais, mon cœur ne retient qu'une chose. Je suis jeune, je vis, abandonné, avec un corps qui se consume. Je reste un moment sur l'herbe, du rivage, parmi les arbres nus. Puis je marche et m'en vais sous les nuages et vis avec ma jeunesse. Je regarde derrière moi et je pleure. Les villages pauvres, les nuages et le froment, la maison sombre, la fumée, les bicyclettes, les avions qui passent tels des tonnerres et les enfants les regardent. Une façon de rire qui vient du fond du cœur. Les yeux qui regardent alentour brûlent de curiosité sans honte aucune, de respect. Sans peur, je pleure un monde mort. Pourtant, moi qui le pleure, je ne suis pas mort. Si nous voulons aller de l'avant, il nous faut pleurer. Le temps qui ne reviendra plus et dire non à cette réalité qui nous a enfermés dans sa prison. Ce sont les riches qui l'ont bâti, c'est-à-dire les ennemis de classe. Maintenant, ils sont en difficulté et nous devrions les aider. Certes, ce serait réaliste si le futur leur appartenait. Mais ne serions-nous pas trop lucides? La lucidité du plaisir de mourir, croyant que leur réalité était celle de tout le futur. Il n'y aurait rien eu à redire. Si l'on allait ainsi, il aurait mieux valu les aider, baisser la tête, et les aider, baisser la tête, et dire aux travailleurs qu'y faire. La même force qui a ôté aux travailleurs la possibilité de sourire, sa spontanéité, le sourire de la résignation et de la révolte, a ôté au monde tout désir de révolution, l'anxiété d'atteindre le bien-être le plus vite possible et beaucoup plus forte. Que Dieu, les fils les plus jeunes, des ouvriers avaient désormais des sourires bourgeois, honte d'eux-mêmes, des dignités qui rendent tristes, des conformismes, mieux enracinés que leur instinct, des habitudes faussement intellectuelles, des snobismes malheureux, liberté concédée et devenue fébrile soif de possession. Comment transformer de l'intérieur la réalité bourgeoise avec l'apport de ces nouveaux ouvriers ? Désormais, ce qui n'a pas été prévu survient, les riches deviendront moins riches, les pauvres plus pauvres, ils se regarderont de nouveau dans les yeux.